Comme je l'ai déjà dit, nous sommes très très reconnaissants au Seigneur pour le privilège de pouvoir nous réunir chaque fois pour faire à nouveau l'expérience avec lui, entendre sa parole, nous y approfondir et classer bibliquement ce qui se déroule sous nos yeux afin de savoir que le Seigneur tient le règne et est aux commandes et que toutes choses s'accomplissent conformément à son plan. Je crois que c'était le dernier dimanche du mois dernier lorsque ici j'ai presque dit en passant que nous voyons se former sous nos yeux le dernier empire mondial comme Daniel l'a annoncé et comme il est également décrit dans Apocalypse. Et qu'est-ce que j'ai dit? La Suisse aussi fait partie de cette Europe et à la longue, elle ne pourra pas rester en dehors. Et quelle fut ma surprise lorsque mardi dernier à 6h30, j'entendis à la radio allemande les 7 pays de l'AIL sont parvenus à un accord avec la CEE après 15 heures de négociations. Et voici que l'Europe tout entière prend forme sous nos yeux. Déjà à la fin de 1992 et dès 1993, il n'y aura plus de frontières du Cap Nord jusqu'à la Méditerranée. Qu'avons-nous dit au cours de toutes ces années? Je le répète aujourd'hui, qu'il y ait des référendums, qu'il y ait des soulèvements populaires, personne n'arrêtera cette évolution. Le temps est venu et tout suit son cours. Lorsqu'on annonça avec fierté que cette grande maison européenne compterait alors 280 millions d'habitants et constituerait naturellement la plus grande puissance. Et je crois que les États-Unis comptaient, la dernière fois que j'ai entendu, environ 218 millions d'habitants. Et tous les autres viennent ensuite. Japon avec environ 115 millions. Ainsi se construit cette puissance mondiale européenne sous une suprématie romano-catholique comme la prophétie biblique l'avait annoncé. Je ne sais plus si je l'ai déjà mentionné ici. Il existe des enseignants de la Bible qui, par le passé, sont passés à côté de Dieu parce qu'ils n'ont pas accepté l'enseignement prophétique et la révélation apportée par le ministère de Frère Branham. Je fais partie de ceux qui viennent ici en disant sans cesse, je ne fais pas partie de ceux-là qui viennent ici en disant, le prophète a dit. Mais il y a une chose que j'apprécie dans mon cœur avec une profonde reconnaissance, c'est que Dieu nous a envoyé son serviteur et prophète afin de nous montrer le développement des événements qui étaient certes déjà écrits dans la parole prophétique, mais que nous ne pouvions ni voir ni comprendre, parce qu'ils étaient présentés sous forme de symboles et d'images. C'est pourquoi nous sommes d'autant plus reconnaissants envers le Seigneur de pouvoir reconnaître aujourd'hui ce qui se passe et d'en conclure que nous sommes réellement parvenus à la dernière phase précédant le retour de Jésus-Christ. J'ai également lu il y a quelques semaines dans le journal Die Welt am Sonntag, Le Monde le dimanche, cette déclaration. Le pape ne sera prêt à reconnaître Israël que lorsque celui-ci aura fait des concessions et qu'une paix y sera établie. Et nous voyons que ces choses aussi sont maintenant en préparation et Israël est contraint de participer à ces négociations. Ce qui me préoccupe réellement là-dessus, ce n'est pas tant le fait que les négociations aient lieu, mais plutôt que le voile demeure encore sur le peuple d'Israël. J'ai effectivement vu et entendu dans les informations une discussion portant sur la question de savoir qui pourrait être le Messie. Et celui qui posait la question demanda, ce rabbin ne pourrait-il pas être déjà le Messie? Alors je me suis dit en moi-même, oh Dieu, quelle immense détresse. Autrefois, ils n'ont pas reçu le Messie venu du ciel. Et maintenant, ils attendent un Messie qui sortirait du milieu d'eux. Cela m'a profondément touché. Et je me suis demandé, faut-il vraiment que cela dure jusqu'à la fin? Que le voile demeure sur leurs yeux jusqu'au moment où les deux témoins apparaîtront et où leurs yeux seront vraiment ouverts. Il y a quelques questions auxquelles il n'est pas facile de répondre. Je voudrais simplement lire deux ou trois passages de l'Ancien Testament. Et particulièrement le peuple d'Israël devrait pourtant connaître ces passages parce qu'ils concernent le Messie. Prenons Michée au chapitre 5, versets 1 à 3. Michée chapitre 5, versets 1 à 3. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre des milliers de Judas. Et voici ce mais divin. Mais de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Il ne s'agit donc pas de quelqu'un qui naîtrait simplement comme fils de tel ou tel quelque part, mais il s'agit de celui dont l'origine remonte au jour de l'éternité, de celui dont il est écrit dans Hébreux 7:3, qu'il n'a pas de père, ni de mère, ni de généalogie, ni de commencement de jour, ni de fin de vie, mais qui est semblable à Melchisédek. Combien nous pouvons être reconnaissants, et je le dis avec une profonde émotion interne, combien nous pouvons être reconnaissants de ce que Dieu se soit révélé lui-même à nous et qu'il nous ait donné accès à cette révélation de la parole par grâce. S'il est écrit ici que le Seigneur sera dominateur sur Israël, il ne peut pas s'agir d'un homme quelconque, pas même un homme particulier comme David ou d'un autre. Israël a besoin d'un rédempteur qui n'avait pas lui-même besoin de rédemption, comme nous-mêmes. Nous avions besoin d'un rédempteur qui n'avait pas lui-même besoin d'être racheté. Tout homme né dans ce monde, qu'il soit sacrificateur, prophète, roi, qui qu'il soit, il avait besoin de la grâce et de la rédemption. Ainsi, donc, a dû intervenir lui-même par sa propre révélation comme rédempteur afin d'accomplir la rédemption. En ce qui concerne son règne, sa domination, je voudrais encore lire cette puissante parole tirée du prophète Ésaïe au chapitre 9. Vous la connaissez tous. Ésaïe, chapitre 9. Et à cela, oui, fait partie aussi Ésaïe, chapitre 7. Ces deux passages doivent être comparés ensemble. Je les lis tous deux. Je lis tous les deux passages, commençant par Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Maintenant, au chapitre 9, Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Verset 6. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit, par la justice dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que le zèle, voilà ce que fera le zèle du Seigneur des armées. Combien de telles déclarations des Saintes Écritures sont claires, précises et sans équivoque. Il n'est pas dit que l'épouse de tel ou tel enfantera quelqu'un, mais il est dit la Vierge enfantera. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et comme nous l'avons dit précédemment, le Seigneur a ordonné toutes choses, les a fixées dans sa parole et mène à son dessein, conduit son dessein à son accomplissement jusqu'à ce que nous, puis Israël également, puissions passer de la foi à la vue. Poursuivons cette méditation de la parole avec le prophète Zacharie au chapitre 1, à partir du verset 3. Zacharie, chapitre 1, à partir du verset 3. Tu leur diras donc, ainsi parle le Seigneur des armées. Revenez à moi, dit le Seigneur des armées, et je reviendrai à vous, dit le Seigneur des armées. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant, « Ainsi parle le Seigneur des armées. Revenez donc de vos mauvaises voies et de vos mauvaises actions. » Mais ils n'écoutèrent pas, ils ne firent pas attention à moi, dit le Seigneur. Verset 5. Vos pères, où sont-ils? Et les prophètes pouvaient-ils vivre éternellement? Verset 6. Cependant, mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, les prophètes, n'ont-ils pas atteint vos pères? Ils sont revenus et ils ont dit, le Seigneur des armées nous a traités comme il avait résolu de faire selon nos voies et selon nos actions. Jusqu'ici, cette précieuse parole. Vous savez que les Saintes Écritures sont rédigées de telle manière que nous ne devons pas seulement lire ce que Dieu a reproché aux autres et nous en contenter, mais nous devons lire en nous sentant personnellement interpellés, puis nous devons nous examiner nous-mêmes afin de voir ce qui nous concerne. Dieu a présenté les deux choses au peuple d'Israël, la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, lorsqu'il y a l'obéissance et la foi, la malédiction, lorsqu'il y a la désobéissance et l'incrédulité. Dieu a placé les deux choses ou les deux réalités devant Israël et il place également les deux choses devant nous. Il y a eu des paroles de jugement Il y a eu aussi les desseins de Dieu proclamés par ses serviteurs, les prophètes. Lorsque j'ai lu aujourd'hui ce passage, en particulier cette expression ici au verset 6, que j'avais donné à mes serviteurs, les prophètes. J'ai aussitôt pensé à Apocalypse chapitre 10, verset 7, car on y retrouve particulièrement la même formulation. Apocalypse chapitre 10, verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Dieu a parlé par ses serviteurs, les prophètes. Et conformément à Hébreux chapitre 1, verset 1, après avoir autrefois parlé par les prophètes, il a parlé à la fin de ces jours par son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Hébreux 1, verset 1. En lui, tout ce qui avait été annoncé auparavant et qui faisait partie de l'ensemble du dessein de Dieu est devenu réalité. Et depuis lors, cela devient réalité et par l'Église du Dieu vivant. Les deux choses s'accomplissent. Les paroles de jugement et aussi les promesses de bénédiction qui appartiennent ou bien qui font partie du dessein de Dieu. Je pense que nous pouvons dire honnêtement et sincèrement qu'en ces jours, nous nous efforçons, selon notre meilleure conscience et connaissance, nous nous efforçons d'être du côté de Dieu, de croire sa parole, et dans la mesure où le Seigneur nous en fait grâce, de le suivre avec obéissance et reconnaissance afin d'avoir part à ce qui appartient ou fait partie de son grand dessein qu'il a conçu. En ce qui concerne le peuple d'Israël et en parallèle avec l'Église, une autre pensée m'a également profondément touché. La parole de Dieu fait mention des deux choses, du rassemblement et du retour du peuple d'Israël, puis du temps de purification et de jugement qui y est lié, et enfin du temps de joie et d'allégresse sur la montagne de Sion. Quant à nous, Église du Dieu vivant, nous recevrons, comme nous le savons tous, la dernière effusion du Saint-Esprit comme sous forme de pluie de l'arrière-saison, de la même manière que l'Église au commencement avait reçu la pluie de la première saison par l'effusion du Saint-Esprit. Et nous croyons que des choses plus grandes encore se produiront maintenant à la fin. Quelqu'un pourrait alors demander, comment cela se fera-t-il? Oui, qui sera capable de le faire? Comme nous l'avons déjà dit, la réponse se trouve dans Zacharie 4, verset 6. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit. Ce n'est pas par les grands évangélistes, les grands évangélistes ou par les grands hommes de Dieu. Cela, je l'ajoute maintenant en parenthèse. Ainsi, la dernière œuvre de Dieu descendra du ciel et se manifestera ici-bas d'une manière surnaturelle. Il y a peu de temps, lorsque nous en parlions entre frères, l'un a dit, la sécheresse actuelle est nécessaire afin que lorsque la pluie viendra, tout puisse aussitôt refleurir. De même qu'une terre desséchée soupire après l'eau et en a besoin, absolument besoin, Ainsi, nous nous sentons en ce jour. Tous les autres peuvent encore faire de l'ambiance, qu'elle corresponde ou non à la réalité. Nous ne pouvons pas produire ni l'ambiance ni l'atmosphère, mais Dieu peut tout. Avec lui vient d'abord l'accord avec sa parole, l'harmonie avec ce qu'il a dit et promis. Ensuite seulement vient tout le reste. J'ai lu ici dans Jérémie au chapitre 30. Jérémie, chapitre 30, verset 3. Ici, il est écrit, Jérémie 30, verset 3, « Car voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit le Seigneur, je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père et ils le posséderont. » Et à cela, nous disons tous Amen. C'est ainsi que Dieu l'a dit et c'est ainsi qu'il en sera pour toujours. Mais ensuite, dans les versets qui suivent, il est dit autre chose. Je voudrais lire seulement le verset 7, Jérémie 30, verset 7. « Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. » Nous savons, sur base des Saintes Écritures, qu'un temps de détresse attend encore Israël. Et lorsqu'on observe ce qui se passe au Vatican, d'ailleurs, nous l'avons appris par les informations, à Bruxelles même, à deux pas du siège des institutions européennes, le Vatican installe son centre d'information. C'est là que tous les journalistes seront formés. Toute l'information sera bientôt orientée dans un seul sens. Ces choses sont encore annoncées ouvertement pour le moment, du moins, par les grands médias. Et nous constatons que des foules de protestants deviennent catholiques. Cela ne fait peut-être pas directement partie de notre sujet, mais c'est vrai. Oui, également parmi les médecins, les juristes, dans toutes les professions, partout, les gens passent de l'autre côté. On sait parfaitement que si l'on n'appartient pas au bon côté, à la bonne église, on n'a pratiquement aucune chance de faire carrière. Les gens le savent, on peut le lire et on voit clairement où tout cela conduit, à savoir à ce que le pape lui-même a déclaré, à savoir une Europe des patries dans ses frontières originelles sous la foi romano-catholique ou catholique romaine. Car il affirme que telle était la foi originale. Je ne voudrais pas faire ici une déclaration officielle, mais je tiens à le dire aujourd'hui. L'Église catholique romaine n'a pas son origine à Jérusalem. C'est à Jérusalem qu'a commencé l'Église du Dieu vivant qui est la colonne et l'appui de la vérité, selon 1 Timothée 3, verset 15. Les trois premiers siècles se sont écoulés sans une Église catholique romaine, sans cardinaux, sans pape, sans culte des saints, sans canonisation, sans toutes ces choses. Tout le monde le sait. Seulement, le peuple est trompé. On trompe le peuple en lui disant que Pierre fut le premier pape. Pourtant, on peut lire que les 45 premiers prétendus papes n'étaient même pas des papes, puisqu'il n'existait pas encore de papauté durant ces premiers siècles. Mais c'est ainsi qu'on le présente au peuple. Et même parmi les protestants, il ne reste presque plus personne dont les yeux soient ouverts pour voir et reconnaître qu'il s'agit là de prétention sans aucun fondement destinée uniquement à maintenir les peuples sous leur empire. Et partout où on regarde, la religion est mêlée à la politique et la politique mêlée à la religion. Ainsi, comme la Bible nous le dit de manière claire dans Apocalypse chapitre 17, cette Église universelle chevauchera la puissance mondiale et tiendra les rênes entre ses mains. Mais nous ne pouvons pas développer davantage sur ce sujet maintenant. Nous l'exposerons de manière écrite. Mais pour nous, en tant que des croyants bibliques, l'essentiel est d'être séparés de tout ce qui n'appartient pas à la parole originelle, de tout ce qui n'a pas son origine à Jérusalem, dans ce que les prophètes et les apôtres ont annoncé, et d'être purifiés par le lavage de l'eau de la parole, afin d'être une épouse parole, comme Christ, notre Rédempteur, était lui-même l'époux parole. Car c'est ainsi que c'est écrit que la parole a été faite chair et a habité parmi nous, 1 Jean 14. Il se peut que cela paraisse un peu étrange à ceux qui ne sont pas initiés, que cette comparaison revienne sans cesse d'ici sur la chair. Je ne peux pas faire autrement. Et je vous pose la question, qui élève aujourd'hui sa voix? Voilà. Oui, nous y sommes. J'ai effectivement lu au sujet de ce grand évangéliste, si estimé particulièrement en Suisse, lorsque Gorbatchev fut élu et que l'on remarqua cette marque qu'il portait depuis sa naissance sur le front, il déclara que c'était la marque de la bête et que Gorbatchev était la bête. Puis, lorsque le pape fut victime d'un attentat, il écrivit avec beaucoup d'assurance, « Voilà la blessure mortelle, elle est maintenant guérie. » Je ne voudrais pas faire de tort à quelqu'un, mais je me souviens très bien des premières informations. Le pape n'avait pas été touché à la tête. Il avait en réalité été atteint au bas-ventre. Il ne s'agissait pas d'une blessure de la tête qui aurait été guérie, mais d'une blessure tout autre. Voyez-vous, les hommes ne prêtent pas attention à la parole. Ils ont eux-mêmes l'impression d'avoir absorbé la sagesse de Dieu, non pas avec une simple cuillère, mais avec une grande louche. Et lorsqu'on examine les choses de plus près, il ne reste rien d'autre qu'une sagesse purement humainement fabriquée. En revanche, Dieu nous a véritablement accordé la grâce de croire de tout notre cœur à la sagesse de Dieu, à la sagesse de la parole, non pas à ce que les hommes disent, mais à ce qui est écrit dans la parole de Dieu et nous a été communiqué et aussi pouvoir la croire et y obéir. Je voudrais lire dans le prophète Ésaïe au chapitre 33, également en rapport avec Israël. Ésaïe chapitre 33. Et je crois que lorsque vous allez lire le livre qui a été rédigé nouvellement, vous constaterez que les mêmes puissances qui ont persécuté et dispersé Israël sont exactement les mêmes qui ont également persécuté et dispersé l'Église, dans les deux cas. Ainsi, dans Ésaïe au chapitre 33, verset 1, il est écrit, « Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas pillé, quand tu auras achevé de ravager, tu seras toi-même ravagé. Quand tu auras fini de piller, on te pillera. » Vous connaissez tous les passages bibliques tirés du prophète Daniel, chapitre 9, verset 27, concernant la désolation, Dans Daniel chapitre 9, verset 27, ici il est écrit, il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et durant la moitié de la semaine d'année, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que vienne ce qui a été résolu, jusqu'à ce que la ruine qui a été résolue fonde sur le dévastateur. Vous connaissez également tous la parole de Matthieu 24, verset 15, où le Seigneur a dit, « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, et comme je l'ai fait remarquer tout à l'heure, il arrivera que ce système qui a dévasté toute la christianité puisse conclure une alliance avec Israël et y apportera également la désolation. Mais tout cela fait partie de la parole de Dieu, de son plan pour le temps de la fin. Et Paul écrit dans l'Épître aux Romains, Romains 9, verset 27, « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. De même que parmi les croyants issus des nations, tous n'ont pas été inclus dans l'élection et la prédestination, il en est de même pour Israël. Mais heureux l'homme qui cherche Dieu, qui a été donné dans son cœur de connaître la volonté de Dieu en ce temps, non seulement d'être croyant, mais de croire Dieu exactement comme dit l'Écriture. J'ai également beaucoup réfléchi à ce sujet ces derniers jours. Nous faisons partie de ceux qui croient à la conversion, à la nouvelle naissance, au baptême du Saint-Esprit, à la sanctification, à la pleine rédemption. Puis cette question est venue en moi. Combien de ceux qui se sont convertis sont réellement venus à Christ de tout leur cœur et ont abandonné leur propre voie, selon la parole d'Ésaïe 55. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne au Seigneur. Une conversion vers Dieu, un retour à la maison comme le Fils prodige, ou une véritable fête a lieu devant Dieu à cause du Fils, des fils et des filles de Dieu revenus à la maison, eux qui étaient perdus et qui ont été retrouvés. Une véritable conversion biblique où chacun est personnellement interpellé, comme ce fut le cas pour Saul, appelé plus tard Paul. Il dit, « Tous virent bien la lumière, mais la voix s'adressa à moi. » C'est ainsi que c'est écrit dans Actes des Apôtres 22, verset 9. Nous pouvons tous voir la lumière qui brille maintenant au milieu des ténèbres. Nous pouvons contempler l'accomplissement de la parole prophétique. Mais ça ne suffit pas. Chacun doit être personnellement interpellé par le Seigneur. Chacun doit expérimenter une véritable conversion à lui. La conviction de péché, la repentance, un retour au Seigneur, où l'on ressent réellement qu'une fête a lieu, car il était perdu et il est retrouvé, ou il est revenu, selon Luc 15, verset 24. L'autre point que je viens de mentionner est la nouvelle naissance. Et l'Écriture dit dans 2 Corinthiens 5, c'est là que ça commence. Verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Et pourtant, on entend de la bouche des croyants des jugements si durs, si impitoyables. Pourquoi les croyants sont plus durs les uns envers les autres que ne le sont les incroyants? Lorsque nous y réfléchissons, combien de malentendus, combien de choses existent encore parmi les croyants alors qu'elles ne devraient même plus être mentionnées. Alors, la question est posée. Les personnes nées de nouveau le sont-elles réellement par la parole et par l'esprit? La vie nouvelle et divine s'est-elle réellement manifestée en nous? Avons-nous reçu en nous les sentiments de Jésus-Christ et sa nature? Bien-aimés, puisque nous allons vers la fin, nous devons faire face à toutes ces questions et ces choses. Il y a encore une troisième chose, le baptême du Saint-Esprit. Combien pensent qu'il leur suffit de prononcer quelques mots en langue, en une autre langue, pour dire que voilà, je l'ai reçu. Et lorsqu'on constate que personne ne parle, qu'on constate que personne ne cause parfois tant de tort avec sa langue que ceux-là même qui prétendent parler des langues nouvelles et que tout ce qu'ils disent n'est que vieille absurdité et sottise destinée à blesser et à faire souffrir. Non. Non, tous ceux qui prétendent être baptisés par le Saint-Esprit ne le sont pas réellement. Le fruit de l'Esprit doit être manifesté et pas seulement le mouvement des lèvres. La vie doit être manifestée. Et notre Seigneur a dit, « Je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait en abondance, selon Jean 10:10. » Dans le premier épître de Corinthiens sont énumérés 9 dons de l'Esprit. Et dans l'épître aux Galates, 9 fruits de l'Esprit. Et les deux demeurent en parfait équilibre. Lorsque la véritable effusion du Saint-Esprit a lieu, ce n'est pas seulement la langue qui est touchée. C'est le cœur lui-même, qui est rempli de la nature de Dieu. Alors l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors tous les dons de l'Esprit trouvent leur juste place dans ce bain d'amour. Ainsi, la vie divine et également le service ou le ministère dans l'Église et le service les uns envers les autres deviennent une véritable bénédiction pour tous. Comme Frère Branham l'a dit un jour, il y a des personnes en présence desquelles on se sent bien, il règne une bonne atmosphère, mais il y a aussi d'autres personnes auprès desquelles on ne se sent pas à l'aise. Veillons tous à tenir notre langue en bride, et si possible, également nos pensées. Quelqu'un m'a offert un livre contenant 1000 citations de Martin Luther. Je ne sais pas qui c'était. Il y avait simplement un petit mot avec une bénédiction. Et j'ai lu un court passage sur le mot insensé. Et cet homme de Dieu y a dit, « Un insensé est celui qui exprime toutes les pensées qui lui viennent à l'esprit. Il nous vient parfois des pensées étranges. Nous les exprimons, nous accablons notre prochain, il ne sait plus quoi faire, il se met à réfléchir, à ruminer, et il ne sait plus quoi comprendre. Bien-aimés, que Dieu nous aide à progresser dans la sanctification afin que nous parvenions réellement ici sur terre à une maturité qui ne soit plus celle d'un enfant resté dans les premiers pas, mais qui grandissent jusqu'à la pleine stature d'homme en Christ, non pas par nos bonnes résolutions, mais par la grâce et par la puissance de notre Dieu. Il est écrit dans Apocalypse au chapitre 22 que celui qui est saint se sanctifie davantage. Il existe donc une troupe sur terre des élus qui ne seront jamais satisfaits de leur état actuel. Car il s'agit d'aller toujours plus loin jusqu'au jour où nous passerons de la foi à la vie. Mais il y a encore deux paroles qui me touchent et que je voudrais lire. La première parole se trouve dans 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Ici, il est question du retour du Seigneur qui a été promis, ainsi que plusieurs événements qui accompagnent accompagneront, oui, dans le temps de la fin. Puis il est écrit au verset 10 que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et ensuite, les versets 11 et 12. 2 Pierre chapitre 3, versets 11 et 12. Puisque toutes ces choses doivent, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du Seigneur Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Il ne s'agit donc pas seulement de dire que le jour vient, mais il faut se laisser préparer, se laisser équiper sous la prédication de la parole, accepter une circoncision du cœur et dire « Seigneur, ôte-moi tout ce qui ne te plaît pas et tout ce qui m'empêche de te servir entièrement. » Je relis encore le verset 11. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du Seigneur Dieu. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Ces réunions sont des heures de préparation, d'équipement et de mise en ordre afin que s'accomplisse en nous ce que le Seigneur a dit dans Luc au chapitre 21 à partir du verset 34. Luc chapitre 21, verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par l'excès du manger et du boire, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Verset 35. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Quelle puissante parole! Elle s'adresse au temps de la fin, c'est-à-dire à nous qui vivons à la fin du temps de la grâce. Afin que ce jour ne nous surprenne pas comme un piège, que nous ne soyons pas surpris. Et cela est en parfaite harmonie avec la parole que Paul écrit aux Thessaloniciens dans 1 Thessaloniciens 5, verset 4. Il dit, 1 Thessaloniciens 5, verset 4, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Dieu nous a fait grâce en nous donnant la lumière. Et la lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. 1 Jean 5, Jean 1, verset 5. Mais de l'autre côté, cette parole s'accomplit pour les véritables croyants. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Ésaïe 9, verset 1. Encore, pour faire briller la lumière sur la face de Christ. 2 Corinthiens 4, verset 6. Oui, nous avons vu la lumière de la parole prophétique. Et nous pouvons dire, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Psaume 119, verset 105. Quiconque a reçu par le Saint-Esprit la révélation du message du temps de la fin, c'est-à-dire de la parole révélée de Dieu, n'est plus dans les ténèbres. Il n'est plus dans l'incertitude. Il voit clairement le chemin de Dieu éclairé devant lui et il peut marcher par la foi jusqu'au jour où il passera de la foi à la vue. Nous n'avons pas proclamé une parole incertaine, bien au contraire, comme cela a déjà été dit quelquefois avec joie. Il n'y a jamais eu une époque semblable à la nôtre où le conseil de Dieu a été aussi clairement mis en lumière et présenté sous tous ses aspects. Et nous avons toujours à la même conclusion. Nous ne glorifions aucun homme. Nous rendons gloire à Dieu qui a envoyé ses serviteurs et prophètes au commencement et à la fin. Non pas pour que nous les lapidions, ou que nous ornions plus tard leur tombeau, mais afin que nous nous laissions interpeller par Dieu et que sa parole accomplisse en nous, qu'il avons entendu, reçu dans la foi, qu'elle accomplisse en nous ce pourquoi elle a été envoyée. Lisons encore Colossiens chapitre 3, cette merveilleuse parole, Colossiens 3, verset 12. Colossiens 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si quelqu'un a sujet de se plaindre, de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Comment le Seigneur nous a pardonné? Entièrement. Il ne s'est pas contenté de pardonner, il a oublié. Il a jeté toute la culpabilité dans la mer de l'oubli. Là où elle est. Très profonde. Vous souvenez-vous de cet exemple de frère Branham qui racontait comment cette dame avait organisé une réception chez elle et elle craignait qu'il ne crie de temps en temps Alléluia, je crois même qu'il s'agissait du père de la dame de la maison. Il l'avait donc installé à l'étage. Vous vous en souvenez? Il pensait que puisqu'il était en haut, on ne l'entendrait pas là-bas. Il ne voulait pas avoir honte de lui. Puis on lui a donné un livre géographique, et je ne me souviens plus bien. Et en le feuilletant, il ouvra un passage parlant d'un endroit dans la mer dont la profondeur ne pouvait pas être mesurée. Alors la louange monta dans son cœur. Alors vint un Alléluia. Il ne put plus se contenir. Il s'écria: c'est certainement là que le Seigneur a fait disparaître tous mes péchés, là où c'est le plus profond, où personne ne peut plus retrouver, ni le faire remonter, là où ils ont disparu pour toujours. Bien-aimés, voilà la vérité divine. Notre culpabilité et notre péché ont été ôtés de nous pour toujours, pardonnés à la croix de Golgotha. Nous n'en entendrons plus jamais parler durant toute l'éternité. Nous n'en verrons plus jamais rien. Mais comme des rachetés, délivrés, des hommes et des femmes consacrés à Dieu, nous rendrons éternellement à notre Rédempteur notre reconnaissance de tout notre cœur et de toute notre âme. Bien-aimés, terminons avec cette exhortation. Il ne faudrait pas que quelqu'un quitte ce lieu attristé. Tout au contraire, que chacun ait compris combien Dieu nous veut du bien. Il est juste que nous nous examinions devant lui, mais nous le faisons dans la foi, pas dans l'incrédulité. Et si nous découvrons quelque chose en nous, nous le lui apportons en disant, « Seigneur, tu sais, nous ne l'avons pas voulu, ce n'était pas mon intention. Tu connais mon cœur, pardonne-moi et fais-moi grâce. » Amen. Et voilà que la main de Dieu vient sur nous et sa paix qui surpasse toute intelligence humaine remplit nos cœurs. Et cette paix de Dieu règne alors en nous. Alors nous sommes enfants de paix. Heureux les débonnaires, Matthieu 5:5, car ils posséderont le royaume. Heureux ceux qui procurent la paix, Matthieu 5:9. Des hommes et des femmes qui ont trouvé la paix avec Dieu. Des hommes et des femmes qui sont entrés dans le repos de Dieu. Des hommes et des femmes qui ont reçu par l'Esprit le témoignage que nous sommes devenus enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et comme il nous est dit ici dans Colossiens 3, verset 12, ainsi donc, comme des élus de Dieu, comme des saints et des bien-aimés, puis viennent les qualités qui doivent être trouvées en nous. Oui, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et la suite, supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement comme le Seigneur vous a pardonné. Si quelqu'un a quelque chose à reprocher à l'autre, comme le Seigneur vous a pardonné, pardonnez-vous. Prenons ces paroles à cœur. Pardonnons-nous les uns les autres de tout notre cœur entièrement. Si quelqu'un pense avoir quelque chose contre un autre, oh, pardonnez-vous avec le même pardon que celui par lequel Dieu nous a tous pardonnés en Christ. Manifestons simplement entre frères et sœurs ce pardon divin dont nous avons nous-mêmes bénéficié. C'est ainsi qu'une communion profonde et sincère pourra s'établir. On ne verra plus les fautes de l'autre. On se voit soi-même devant le Seigneur et on dit, « Oh Dieu, tu atteindras ton but avec moi, avec ce frère, avec cette sœur. » Alors, nous présenterons les autres au Seigneur dans la prière. Nous exercerons un véritable ministère sacerdotal. Et comme cela est écrit ici, verset 15, « Que la paix de Christ, Colossiens 3, verset 15, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la paix de Christ habite, pardon, non, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Nous sommes plusieurs membres, nous formons un seul corps dans le Seigneur. Christ est notre tête. Puisse une véritable conversion, véritable nouvelle naissance, véritable baptême du Saint-Esprit et de feu, véritable sanctification, véritable rédemption, une pleine rédemption dans le sens propre et profond du terme, nous soit accordée par grâce. Et lorsque cela arrivera, et nous croyons que cela arrivera, alors Dieu pourra achever l'œuvre qu'il a commencée en nous pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà le but de notre vocation céleste, comme Paul l'écrit aux Philippiens. Il écrit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, Je cours vers le but. Amen. Philippiens 3, verset 14. Puisse cette journée et cette méditation avoir produit en nous un désir nouveau, le désir de faire de nouvelles expériences avec Dieu, le désir de le servir entièrement, le désir d'être pleinement à sa disposition, afin que nous puissions dire en vérité, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, verset 20. Et la vie que nous vivons encore maintenant, nous la vivons dans la foi au Fils de Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, à qui il a plu de glorifier sa parole et son nom, rassembler son peuple, de l'instruire, de l'appeler à sortir, puis de le préparer, de l'équiper et de l'amener à l'achèvement. À lui, le Dieu Tout-Puissant, soit la louange, l'honneur, la gloire et l'adoration pour tout ce qu'il a fait pour nous par grâce et pour tout ce qu'il fera encore jusqu'au jour où nous puissions le voir. À lui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Père Céleste, encore une fois, nous venons devant ta face. Nous te remercions pour ta précieuse et sainte parole, ainsi que pour l'action de ton Saint-Esprit. Ô Seigneur, aujourd'hui encore ta parole accomplit et produit, manifeste ce pourquoi tu l'as envoyé. Dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps de tous ceux qui l'ont reçu avec foi. En vérité, Seigneur fidèle, tu es le même et tu as promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Seigneur, nous t'en remercions. Nous le croyons. Nous croyons que tu seras puissamment avec nous jusqu'à la fin. Fidèle Dieu, nous te prions pour tous ceux qui ont levé les mains, ainsi que pour ceux qui n'ont peut-être pas trouvé le courage de le faire. Fidèle Seigneur, viens à notre rencontre, pardonne, délivre, libère, répare tout mal, que ta paix, ô Dieu, qui surpasse toute intelligence, entre dans chaque cœur et que chacun reçoive la pleine assurance de la foi que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec toi-même. Dieu fidèle, nous te remercions ensemble également pour le privilège de vivre précisément dans ces jours, ces derniers jours de l'histoire du monde et du salut, ainsi que pour le privilège de contempler dans une pleine lumière ta parole révélée. Alléluia! Nous te remercions de confirmer et d'accomplir la parole de tes serviteurs et de tes prophètes. Cela s'accomplit sous nos yeux. Alléluia! Puisses-tu bénir comme jamais auparavant. Bien-aimé Seigneur, viens à notre rencontre. Mon Dieu, nous te remercions pour cela. Nous ressentons ta présence. Tu es au milieu de nous. Tu nous as fait du bien selon ta grande bonté et ta miséricorde. À toi soient les actions de grâce. Ô Dieu, dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Amen.